Pourquoi tu me regardes comme ça ?
Des fois, cette émission me touche. J'aime bien le vivre à côté de toi, Mimi.
Et c'est sur l'autre radio ? Est-ce qu'on devient indifférent à force de tout savoir ? Est-ce que trop voir finit par nous empêcher de regarder ? Quand une image de naufrage croise une publicité pour des baskets, quand une frontière s'efface d'un clic, quand la mort devient une donnée chiffrée ? Est-ce qu'on sent encore ce qu'on devrait sentir ? Est-ce que l'empathie s'use ? Est-ce qu'elle se choisit ? Et puis, est-ce que la fiction, parfois, ne dit pas plus justement les choses que les faits ? Quand tout se mélange, le vrai, le presque vrai, le trop vrai pour être cru, qu'est-ce qu'il nous reste pour comprendre le monde sans s'y perdre. Aujourd'hui, on ne va pas tenter de tout embrasser ni de raconter le monde entier en 10 minutes. On va se concentrer sur une vraie faille, une fêlure dans le paysage. Et pour cela, on va se pencher sur un dialogue écrit par Éric Fotorino, La pêche du jour, qui sera lu ce soir au Carré à Château-Gontier. Alors, ce n'est pas une pièce de théâtre, pas un manifeste, c'est un texte qui serre, qui gratte, qui interroge, un texte qui nous place face à ce qu'on préfère souvent laisser hors champ. Autour de cette lecture musicale, une table ronde, des rencontres et un travail mené avec des jeunes dans des classes, des structures pour parler de migration, d'information et de regard. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Éric Fotorino. Bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, romancier, ancien directeur du Monde, fondateur de l'hebdomadaire Le 1, qui explore donc chaque semaine un sujet unique, et auteur de ce texte qui choisit la fiction pour dire l'inconfort, le cynisme et la frontière trouble entre nos silences et nos responsabilités. À vos côtés, Pierre-François, animateur d'Atelier Radio à l'autre radio. Bonjour Pierre, merci d'être
Bonjour,
ici.
Margot.
Alors toi, tu fais entendre d'autres voix, celles qu'on écoute trop rarement. On peut dire que tu travailles la parole, tu formes le regard que l'on porte sur les médias, tu interviens dans des structures scolaire, mais pas seulement, on le verra ensemble aujourd'hui dans cette émission. Merci d'être avec moi. Bienvenue amis auditeuristes dans la JT du local, je suis Margot et aujourd'hui je vous propose un format un peu spécial. On va prendre le temps de comprendre, d'échanger et vous donner un avant-goût de ce qui va se raconter ce soir au Théâtre des Ursulines à Château-Gontier. Cette émission se terminera avec Soizic et sa chronique Un autre écho de l'écho qui justement nous parlera aussi d'immigration. Éric Fotorino, on peut commencer cet entretien maintenant. On vit dans un monde aujourd'hui où l'information nous parvient sans qu'on la cherche, dans un flux constant, souvent même violent. Est-ce qu'on peut encore vraiment rester sensible à ce qu'on lit, à ce qu'on voit aujourd'hui ?
Alors, c'est vrai que ce trop-plein a tendance à nous immuniser, à nous rendre peut-être indifférents, et au-delà de l'indifférence, à susciter un réflexe de protection. C'est-à-dire que il y a une telle information en continu, des chaînes en continu, une sorte de matraquage, de répétition, de multiplication des écrans, y compris quand on va dans un café, dans un lieu public, on est assailli d'images, d'infos, d'images, et puis avec des infos qui défilent dans des bandeaux dessous. Donc c'est vrai que cette espèce de trop-plein crée et de la saturation, et une envie de s'enfuir. On parle aujourd'hui de, non pas de migration comme on veut en parler, mais d'exilés informationnels, de gens qui ne veulent plus être en contact avec l'information parce que ça, c'est en plus plein d'une dose anxiogène. Donc effectivement, rester réceptif, rester sensible devient plus difficile. On a plus tendance à fuir et à se boucher les yeux et les oreilles.
Justement, on parle beaucoup de fatigue informationnelle. À votre avis, est-ce que cette fatigue naît de la surabondance ou même du manque de profondeur dans ce qu'on reçoit, puisqu'il y a ces deux choses-là ?
Alors, il y a les deux, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a le quantitatif, c'est tout le temps, ça n'arrête pas, ça n'arrête plus. Quand j'ai commencé dans la presse au XXe siècle, dans les années 80, on faisait un journal quotidien. Ben, le journal, une fois que les rotatives avaient tourné, le journal était distribué et puis il ne parlait pas jusqu'au lendemain. Maintenant, un journal, c'est un site internet avec des informations en permanence. Donc, il n'y a plus de début, de milieu et de fin. C'est sans fin. Et deuxièmement, la dimension qualitative, c'est qu'en effet, comme il y a les soucis d'audience, de buzz, de likes, de toutes ces choses-là, toutes ces gratifications qui se terminent aussi par des budgets publicitaires, la déhiérarchisation de l'information est aussi devenue très importante. Autrement dit, on attire l'attention du public sur des choses qui souvent ne sont pas importantes, sont même assez racoleuses, assez secondaires, et donc c'est la montée de l'insignifiance. Donc si on ajoute une quantité, un matraquage, mais un matraquage de vide, ou de choses qui n'ont pas beaucoup de sens, évidemment, le réflexe, c'est de s'en éloigner.
Vous avez publié La pêche du jour en 2022 aux éditions Philippe Ray. Déjà, peut-être en quelques mots, qu'est-ce que nous raconte ce texte, qui est un texte fictionnel ?
Oui, c'est un texte qui a surgi une nuit, il a été écrit en quelques heures. Il raconte un dialogue, en fait, entre un drôle de marchand, j'allais dire, et un drôle de client ou une drôle de cliente. Le drôle de marchand, il a un étal sur lequel sont étalés, allongés des cadavres de migrants. Et ce client est peut-être quelqu'un qui veut acheter un corps, veut acheter un morceau de corps. Donc évidemment, on est d'emblée dans quelque chose qui n'est pas la réalité, mais je dirais qui est peut-être trop réel, c'est-à-dire qui est la réalité juste poussée un tout petit peu plus dans une forme à la fois de cynisme, mais aussi de regard un peu nettoyé pour montrer que la réalité... C'est que nous sommes, devenus des États cannibales qui dévoreront ces migrants en laissant la mer faire le travail.
Comme vous le dites, c'est un texte très dépouillé qui prend la forme d'un dialogue. C'est presque une scène théâtrale. Donc finalement, ça a du sens, je pense, de passer par l'oralité ce soir sur la scène du Théâtre des Ursulines. Pourquoi avoir choisi cette forme-là, épurée, tendue ?
Alors, moi, je n'ai jamais écrit de pièce de théâtre et je ne considère pas que ce texte soit une pièce de théâtre. Mais là où je relève dans votre question, c'est pourquoi avoir choisi. Je crois que je n'ai pas choisi. Je crois que ça s'est imposé à moi comme ça. Ça faisait très longtemps que je publiais des numéros spéciaux du 1 sur les migrants, avec toutes sortes de témoignages. Vraiment, on a fait le tour de la question, j'allais dire, des fois et des fois, avec des écrivains comme Laurent Godet, avec des spécialistes comme Catherine de Vindel ou Michel Agier, des anthropologues, etc., des économistes, des reporters, bien sûr, des photographes. Des statisticiens. Enfin, si on prend les 8, 9, peut-être même 10 numéros consacrés par le 1 en 10 ans aux migrants, mais on a de quoi faire un livre très intéressant sur la question. Donc pourquoi ? Ben, je crois qu'il y avait quelque chose chez moi comme un impensé qui était de me dire tout ça ne suffit pas. Tout ça, n'a pas, à mon sens, créé suffisamment à la fois d'émotion, mais l'émotion, il faut toujours se méfier de l'émotion, et de rationalité, c'est-à-dire on est en train de devenir inhumain. D'ailleurs, ce numéro du 1 dans lequel j'ai publié La pêche du jour la première fois s'appelait Sommes-nous encore humains ? Et donc, je crois que cette forme, elle s'est imposée à moi parce que, par impuissance, c'est-à-dire que j'avais le sentiment que tous les outils que je pouvais avoir à ma disposition ou à ceux de mon équipe, je les avais utilisés, plutôt bien utilisés. C'était des textes, je me souviens d'un texte de Laurent Godet qui s'appelle « Sigil à France » sur un de ses reportages à Calais, qui avait fait l'objet déjà d'une revue de presse à la radio le lendemain. J'avais l'impression que ces mots-là, ça devait électriser quand même les consciences. Et puis, on est toujours un peu naïf ou avec un peu utopiste en disant « Oui, voilà, les mots qu'on a écrits vont entraîner, vont changer le réel. » Non. Et donc, ce texte, je ne dis pas qu'il a changé le réel, mais simplement, il était une manière pour moi d'appeler le public en lui disant, vous savez, tout ce qu'on voit à longueur de journée, bientôt on ne le verra plus parce que ça fera plus la une, ça aura lassé la question des migrants. Mais il faut quand même que vous sachiez de quoi on parle. Et ce de quoi on parle, c'était de pousser la réalité.
Est-ce que l'on se pose des questions éthiques ? Est-ce qu'il y a une vigilance, une responsabilité particulière lorsqu'on crée une fiction autour d'un drame comme celui-ci qui est bien concret quand on se lance dans l'écriture, justement ? Est-ce que vous avez eu des doutes à un moment ou des vigilances ?
Oui, bien sûr. Il y a une précaution d'usage. C'est-à-dire que ce texte, il n'est pas à mettre entre toutes les mains sans explication. Il a été fait l'objet de nombreuses représentations théâtrales. Ça a commencé au Théâtre du Rond-Point à Paris avec Jacques Weber, mais ça a continué. Il a d'abord été interprété en Italie, puisque je l'ai d'abord envoyé ce texte en Italie et en Espagne, et il a été interprété dans ces deux pays, traduit et interprété. Je crois qu'effectivement, la responsabilité éthique, elle est de dire ce que je vous dis là, je ne vous juge pas. Et d'ailleurs, les deux personnages qui font La pêche du jour... L'un n'est pas le mal et l'autre le bien. C'est beaucoup plus entremêlé que ça. Mais c'est simplement que ça nous oblige à nous regarder nous-mêmes sur une forme d'indifférence. À un moment donné, dans le dialogue, le pêcheur dit « Vous avez les mains propres, mais vous n'avez pas de mains. C'est la reprise de ce que Sartre a dit dans Les mains sales. Mais c'est vrai que le fait de ne pas s'engager, de rester spectateur, a ses limites lorsqu'on est face à des drames humains comme celui des migrants en Méditerranée.
Vous parlez justement du fait que ce texte doit être accompagné d'explications. Ce matin, vous étiez avec des lycéens pour leur parler de ce texte, mais aussi, j'imagine, de la question migratoire, de votre place de journaliste. Vous avez travaillé 25 ans au Monde. Quels ont été peut-être les retours des jeunes quand vous allez à leur rencontre en général, même parce que vous faites régulièrement des rencontres auprès des publics? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous interpelle peut-être dans leur regard sur l'information, sur le journalisme aujourd'hui?
Oui, d'abord, il se pose des questions sur qu'est-ce que c'est qu'une information, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, comment on peut distinguer l'un de l'autre, ce qui est une question qu'on se pose nous-mêmes, journalistes, évidemment, en permanence, surtout aujourd'hui avec les moyens quasiment industriels massifs de désinformation qui n'existaient pas avant. Il y avait toujours de la propagande, mais là, elle a atteint des niveaux de puissance sur les réseaux sociaux contrôlés par des grands milliardaires, etc. Donc, je pense qu'il y a ça chez eux. Et sur la question migratoire, j'ai souvent eu des questions ou des remarques sur le fait que ce texte pouvait à la fois les choquer, mais au sens d'un électrochoc, et de se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est souvent la question qui me revient. C'est une fois qu'on a lu ce texte, qu'on l'a entendu, qu'est-ce qu'on peut faire? Et moi, ce qui m'a souvent soulagé, ou en tout cas rassuré sur la nature humaine, parce que c'est vrai qu'on se dit, est-ce qu'on est en train de se déshumaniser en même temps qu'on projette un regard qui n'est pas humain sur des humains? J'ai fait beaucoup de rencontres au moment de la parution de La pêche du jour auprès de jeunes, et pas seulement. Et il y avait toujours dans les espaces publics où j'allais des gens qui prenaient la parole pour dire que eux, à leur petit niveau, ils accueillaient des migrants, ils faisaient des cours d'alphabétisation bénévoles, parce que l'État se repose toujours un peu lâchement sur les associations pour faire ça. Et donc j'ai vu dans des endroits même que je n'aurais pas attendu des personnes qui trouvaient que cette situation était scandaleuse et qu'il fallait porter secours, apporter de l'humanité. Et donc je pense que les Français sont loin d'être des gens qu'on voudrait croire super égoïstes et qui n'ont pas d'empathie. Si, on trouve beaucoup de gens, des anonymes, qui font ce travail, et c'est évidemment très précieux et réconfortant.
Donc toujours rester actif, et on parlait au début de cet entretien de sensibilité à l'information. Comment rester sensible à toutes ces informations qui nous parviennent? Justement, qu'est-ce que vous recommanderiez si on s'arrête sur ce que vous avez créé avec votre hebdomadaire Le 1? Effectivement, c'est une information unique qui est traitée. C'est peut-être une manière finalement de se poser chaque jour sur une information sans...
C'est ça, moi ça a été ma réponse. J'avais passé, comme vous l'avez dit, 25 ans au Monde, qui était un journal généraliste. On trouvait l'information tout le temps. Et je me disais, je ne vais pas faire Le Monde. Mais en revanche, essayer effectivement de m'apesantir avec l'équipe sur un sujet, de le décortiquer. Parce que je pense que ce n'est pas tellement la satiété dont ont besoin les gens dans l'information. Ils sont rassasiés au-delà de ce dont ils ont besoin. Non, c'est une recherche de sens, de compréhension, de cohérence, mais avec un début et une fin, pas quelque chose d'infini qui ne finira jamais. Et donc la proposition que je fais, et qui est effectivement, je pense, une bonne manière d'endiguer soi-même, comme une hygiène personnelle, ce flot d'informations, c'est de s'attacher à un sujet, mais d'essayer de le décortiquer en profondeur et en envisageant différents aspects, différents regards. Moi, je suis toujours pour le contradictoire, parce que la vérité, elle ne se promène pas toute seule comme sur un hôtel. Et non, elle n'est pas en majesté, la vérité. C'est toujours compliqué, c'est un effort d'aller la chercher. Et en général, on la trouve mieux avec plusieurs intelligences que une seule intelligence, aussi grande soit-elle. Elle ne suffit pas à dire le tout.
Ce soir, sur la scène du Théâtre des Ursulines à Château-Gontier, votre texte sera donc lu sur scène. Est-ce que la scène aujourd'hui peut encore être un lieu de prise de conscience ou même de réparation, peut-être quelque part?
Alors, moi, j'ai une très mince et modeste expérience de la scène, mais ce que je dois dire, c'est que depuis que ce texte a été joué pour la première fois, interprété, il ne cesse d'être interprété. Là, il y a Château-Gontier, j'en suis très heureux. Le carré et toute l'initiative que vous avez prise avec ces jeunes et ces lycéens. Mais il va être joué à Toulouse, il va être joué à Besançon, il va être joué à Neuchâtel pour toute une tournée en Suisse. Il y a des demandes, je reçois tous les mois une ou deux demandes de personnes qui ont eu ce texte entre les mains et qui ont envie de le faire entendre. Et donc je me dis que c'est bien, c'est rebond, il n'y a pas besoin de moi d'ailleurs, quand je peux être là c'est très bien, mais je veux dire par là, le texte il vit sa vie, après je pense que les gens sont assez intelligents, qui s'en emparent pour le contextualiser, pour dire que c'est pas mes préjugés racistes qui s'expriment à longueur de texte, mais au contraire que c'est une manière justement de décaper les regards pour nous interroger sur notre propre humanité.
Cette lecture musicale sera d'ailleurs diffusée sur les ondes de l'autre radio la semaine prochaine, alors que l'agité du local sera en vacances. Donc chaque midi, vous pourrez écouter un épisode de cette lecture musicale. Merci beaucoup Eric Fotorino d'avoir été avec nous.
Merci à votre radio.
Une pause musicale, on écoute Riverside de Anya Sobel et puis ensuite on continue avec toi Pierre. À tout à l'heure.
Down by the riverside.
vous écoutez toujours l'agité du local sur l'autre radio. Et donc, c'est une émission un peu spéciale aujourd'hui, puisqu'on fait un focus sur la pêche du jour. Le texte de Eric Fotorino, qui sera donc lu en lecture musicale sur la scène du Théâtre des Ursulines, ce soir à Château-Gontier. En première partie d'émission, on a reçu donc Eric Fotorino, qui nous a parlé d'information, de sensibilité à l'information, mais aussi de ce texte, de son origine et de ce qu'il raconte de nous aujourd'hui. En seconde partie d'émission, Pierre-François, notre animateur d'Atelier Radio, qui intervient aussi autour de cette soirée auprès de différents publics. Est-ce que tu peux justement nous expliquer, Pierre, qu'est-ce que tu crées, toi, autour de cette thématique de l'immigration, autour de cette soirée? Donc, tu interviens auprès des scolaires, notamment.
Oui, c'est une intervention en amont et en aval de cette journée du 2 avril, autour, finalement, du journalisme immigration. À travers des ateliers auprès des scolaires. Donc il y a eu des ateliers auprès du lycée Victor Hugo à Château-Gontier avec deux classes différentes, une émission autour des migrations avec 5 épisodes différents où ils ont traité notamment comment était traité l'accueil des migrants, comment l'immigration est traitée comme sujet dans les campagnes présidentielles. Voilà des tas de sujets qui vont être passés du coup sur les ondes de l'autre radio dans le cadre des ateliers. Les ateliers pour cela viennent se terminer. Il y a aussi un atelier qui a été fait toujours avec Victor Hugo autour des frontières, donc des enjeux aux frontières, avec une grande émission d'une heure qui a fini ces ateliers. Et puis dans d'autres lieux, il y aura un atelier que je démarre tout juste avec les CAP de Pierre et Marie Curie, où les jeunes, une quinzaine de jeunes, vont partir à la rencontre en interview de professeurs et de parents d'élèves qui sont dans un dispositif d'apprentissage de la langue française. Ce sont des parents étrangers qui viennent d'arriver, migrants, en France et qui du coup apprennent le français. Et pour la réussite de leurs enfants, dans ce cadre-là, ils apprennent du coup cette langue pour pouvoir les aider au quotidien avec les cours, etc. notamment. Donc il y aura ce troisième atelier du coup, et puis il y aura aussi un quatrième et un cinquième. Un quatrième atelier avec l'association Mia Mia à Mayenne, dans le nord du département. Là, ça va être plus une résidence radio, une résidence où je vais venir 3 jours non-stop, et on va construire avec un public, du coup Mia Mia, c'est avec un public de migrants, qui sont en France en ce moment. On ne sait pas s'ils seront là demain, on ne sait pas depuis combien de temps ils sont arrivés. C'est vraiment un public qui est de passage des fois, qui reste plus longtemps d'autres fois. Et avec ce public-là, on va faire des émissions de radio autour de tout ce que propose Mia Mia et de leur parcours aussi à eux. Comment ils sont arrivés en France, quelles ont été les difficultés qu'ils ont rencontrées, comment ça se passe aujourd'hui l'accueil. Donc un mélange entre des interviews croisées, chacun va faire des interviews d'autres, et puis un reportage sur tous les ateliers qu'il y a à Mia Mia, parce que le rôle de Mia Mia, de cette association, c'est un peu comme une maison de quartier ou une MJC, de proposer des ateliers divers à travers des cours de français, des cours de jardinage, des cours de sport, etc. Donc c'est faire des zooms à travers des petits reportages sur tout ce que fait l'association Mia Mia. Et puis il y aura un dernier atelier qui sera mené avec France Terre d'Asile, où on fera 2 émissions autour des parcours, avec des interviews croisées toujours, et avec toujours ce public de migrants qui viennent d'arriver sur Château-Gontier ou sur Laval, et qui vont nous raconter un petit peu tout ça à travers des ateliers. Donc c'est eux qui vont construire les émissions, mais moi je serai là pour les accompagner sur comment on construit une émission de radio et comment on réalise tout ça.
On parlait tout à l'heure avec Eric Fotorino de cette question de sensibilité à l'information, d'abondance d'informations au quotidien. Quel retour, toi, tu as notamment, par exemple, avec les lycéens avec qui tu étais ce matin, avec qui tu as déjà travaillé sur leur rapport à l'information? Comment est-ce que, justement, où est-ce qu'ils vont puiser l'information, par exemple?
Eh bien, de ce que j'en ai comme écho, c'est surtout maintenant sur les réseaux sociaux. À travers le plus grand média en ce moment, c'est TikTok, où il y a beaucoup d'informations. Il y a des chaînes YouTube comme Hugo Décrypte où ils me parlent de ça. La télévision reste toujours un média qu'ils utilisent. On en parlait ce matin lors de la rencontre avec Eric Fotorino. Et puis du coup, j'entends moins parler de la presse papier. Là, c'est pas une habitude qu'ils ont. Et puis en même temps, ça vient directement dans leur smartphone. L'information arrive à eux sans même qu'ils la recherchent parfois, donc c'est un autre moyen de s'informer, ouais.
On parlait de, on parle de médias radiophoniques, puisque les ateliers radio, c'est aussi de l'éducation aux médias. Qu'est-ce que peut-être ce média radio permet comme approche, comme écriture, comme langage auquel ces jeunes ne sont pas forcément habitués? Je suppose que le média radio, pour les jeunes lycéens, c'est pas forcément... ce qu'ils écoutent le plus.
Non, c'est pas ce qu'ils écoutent le plus. D'ailleurs, au début d'atelier, je leur demande à chaque fois s'ils écoutent la radio. Et en fait, de moins en moins, les jeunes, ils écoutent ce média. Donc, des fois, c'est des podcasts. Donc, on est toujours dans le même format, mais du coup, différemment. Mais du coup, ils l'écoutent de moins en moins. Du coup, ce que peut apporter l'éducation aux médias, c'est justement comment on va aller, dans un travail un peu journalistique, comment on va aller chercher l'information, comment on va la récolter, comment on va l'organiser, comment on va garder ce qui nous intéresse. Et puis après, comment on va le mettre en forme, comment... on va vulgariser pour les auditeurs, pour que ça soit audible. Comment on va écrire avec des phrases simples, des mots simples, des accroches, ces chroniques, comment on va construire une interview, etc. à travers l'information. Donc ouais, l'éducation média permet tout ça finalement. Mmh.
Là, spécifiquement sur ces ateliers, sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui avec la pêche du jour, il est question effectivement de migration, ouais. Avec un texte très fort qui effectivement aborde frontalement les problématiques que pose l'immigration, oui. Aujourd'hui, les migrations. Est-ce que ce sont des sujets qu'ils ont déjà abordés avant de te rencontrer, ou est-ce qu'ils découvrent finalement sur ces ateliers cette question?
Alors certains le découvrent, ces sujets-là, mais alors, en fait, dans les classes... entre l'émission Frontières avec les premières histoires géopolitiques, sciences politiques, et l'émission Migration qui a été faite, elle, avec une classe d'EMC, éducation morale et citoyenne, ils ont vu avec leurs professeurs, que ce soit de géographie ou d'éducation morale, ils ont vu avec leurs professeurs ces questions-là. Donc les questions de frontières, pour l'émission Frontières, ils ont travaillé sur ça en cours, etc. Ils avaient déjà une base grâce aux professeurs, et pareil pour la migration. Et ensuite, certains élèves sont allés plus loin en commençant la lecture de La Pêche du Jour, en lisant le 1 d'Éric Fotorino, qui est disponible dans leur CDI, et où finalement il y a déjà eu, dans des ouvrages précédents, des extraits de La Pêche du Jour, des articles qui font référence à la migration et aux enjeux en frontière. Il y a déjà eu tout ça. Donc ouais, ils ont eu du formel avec les cours, et puis un peu plus d'informel avec chacun sa... Ouais, sa liberté pour aller découvrir ce qu'a fait Éric Fotorino.
Et alors justement, on parle d'Éric Fotorino, ils ont pu le rencontrer ce matin. Est-ce qu'il y a des questions spécifiques sur le journalisme, ce que c'est, le regard que eux portent sur ce métier-là? Aujourd'hui, il y a quand même une défiance un peu plus poussée sur tout ce qu'est le journalisme. Il y a toutes sortes de journalisme, mais du coup, on se rend compte peut-être que les jeunes sont un peu moins... il y a une défiance, quoi. Est-ce que tu l'as ressenti, toi, de ton côté, dans leurs questions, dans leurs interrogations, leurs curiosités?
Alors, on en a parlé ce matin avec Éric Fotorino et avec les élèves de l'évolution du média, l'évolution du journalisme. Éric Fotorino disait que c'est la même définition du journalisme qu'on soit en 1950 ou aujourd'hui. Mais par contre, sa forme change. Et du coup, on est confronté, par exemple, de plus en plus à l'ère des fake news, à l'intelligence artificielle qui arrive en masse dans les médias. Et du coup, il y a une difficulté de trouver la véracité des propos. Il va falloir croiser encore plus ses sources. Et donc, dans la recherche d'informations, dans comment s'informer, ça rend complexe les choses. Et c'est vrai que les élèves en parlaient aussi ce matin dans leur interrogation qu'ils avaient auprès d'Éric Fotorino.
Donc ce soir, on retrouve donc Éric Fotorino, qui sera présent lors de cette lecture musicale La Pêche du Jour, la lecture de son texte publié en 2022 aux éditions Philippe Ray. Il y aura ensuite une table ronde animée par Stéphanie Pacro et Manu Grimaud sur ces thématiques-là. C'est un rendez-vous qui vous est proposé gratuitement au Carré à Château-Gontier. Merci beaucoup Pierre d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, on retrouve Soazic pour sa chronique Un autre écho de l'écho. Mais avant, on écoute un morceau tout en retenue, en boucle presque immobile. Dominica sera sur la scène du Reflet à Saint-Berthevin ce soir. Avec ce titre, il nous parle de ce qu'on retrouve, de ce qui ne bouge pas, même quand tout autour vacille. On écoute à la même place.
Ils attendaient dans la voiture. Ils regardaient tout droit devant. toujours à la même place, face au fleuve d'eau, à l'océan. Elle avait le regard éteint et lui les mains sur le volant. Des heures filaient, de vagues vagues. Ils attendaient dans la voiture. Ils semblaient vieux depuis longtemps. S'ils se parlaient, on n'est pas sûr. Ils regardaient tout droit devant, toujours à la même place, face au fleuve d'eau, à l'océan, au-devant de la vie.
L'agité du local sur l'autre radio. Et donc nous voilà arrivés au moment de la chronique Un autre écho de l'écho avec Soizic. Bonjour Soizic.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et alors aujourd'hui vous nous parlez de la France, une terre d'immigration historique mais toujours un peu coincée.
Oui, parce que savez-vous Margot que la France est le plus ancien pays d'immigration d'Europe. Alors déjà au 19e siècle, alors que les Anglais, les Irlandais, les Allemands, les Scandinaves et les Italiens quittent en masse le continent pour peupler le Nouveau Monde, eh bien la France accueille, elle, des centaines de milliers de Belges. Puis après, ce sont des Italiens, des Polonais, des Espagnols, des Arméniens dans l'entre-deux-guerres, puis encore des Espagnols et des Algériens pour combler le manque de main-d'œuvre des Trente Glorieuses, puis dans les années 60, ce sont des Portugais, des Marocains et des Turcs qui arrivent chez nous. Alors à partir du XXe siècle, comme toute l'économie, l'immigration se mondialise. Et là, ce sont des Africains subsahariens, des Asiatiques et des Latino-Américains qui rejoignent notre pays. Ce qui fait évidemment que les vagues d'immigration qui ont touché la France au XXe siècle sont comparables à celles enregistrées aux États-Unis, nous indique l'historien Gérard Noiriel dans Le Creuset français. En effet, en 1930, l'Hexagone comptait le plus fort taux d'étrangers au monde. Et en 1975, cette part s'élevait à plus de 12% contre, tenez-vous bien, moins de 5% aux États-Unis. La France est donc bel et bien une terre d'accueil. Alors de façon plus contemporaine, selon une étude conjointement menée par l'INSEE et l'Institut national des études démographiques en 2022, la France compte actuellement environ 9% d'immigrés et un tiers des moins de 60 ans compte un parent ou un grand-parent immigré. ce qui place la France en tête des pays européens en termes de population, attention, immigrés ou issus de l'immigration sur les trois dernières générations. Alors bien sûr, cette longue et ample histoire de l'immigration a fait de la France une société à coup sûr bigarrée et plurielle. Mais doit-on la qualifier de multiculturelle ou de multiethnique ?
Et donc, quelle différence entre multiculturel et multiethnique, Soizic ?
Eh bien, l'adjectif multiculturel qualifie une cohabitation de différentes cultures, impliquant donc de la mixité, des échanges culturels entre personnes immigrées et personnes natives. La société qui en résulte devient un mixte de différentes normes et de différentes valeurs pour donner naissance, si vous voulez, à une société un peu hybride entre les deux, quoi. Alors que l'adjectif multiethnique, lui, désigne la coexistence de plusieurs cultures ethniques, religieuses, que vous voulez, dans une même société. C'est-à-dire que les communautés d'immigrés vivent les unes à côté des autres, avec les natifs, mais avec très peu d'interactions et des frontières sociales finalement assez peu poreuses. Alors, dans cette deux possibilités, eh bien, l'approche assimilatrice de la France, héritée de l'universalisme révolutionnaire, tient, elle, du multiculturalisme. Les pays anglo-saxons, à l'inverse, au nom de la liberté individuelle et de la possibilité de continuer à vivre selon les traditions importées de son pays d'origine, tiennent davantage de l'approche multiethnique ou communautariste. Sauf qu'aujourd'hui, cette dichotomie ne paraît plus opérante pour analyser les différentes sociétés et leur immigration. Parce qu'il semble en effet que ce soit plutôt un mix des deux qui décrivent le mieux l'inclusion des populations immigrées ou donc issues de l'immigration, notamment pour celles venues de l'extérieur de l'Europe, particulièrement d'Afrique et de Turquie. Parce que d'un côté, on a le kebab et le couscous qui font désormais partie intégrante de nos normes culinaires, mais d'un autre côté, l'INSEE et la Fondation Jean Jaurès montrent bien dans leur rapport de 2023 que le nombre de mariages mixtes est en diminution. Alors, ce qui semble sûr, c'est que le modèle d'inclusion des immigrés, qu'il soit d'assimilation ou d'intégration, connaît des ratés. Ça, c'est certain. Par exemple, en termes de ségrégation spatiale et professionnelle, pour ne citer que ces deux champs sociologiques, on voit bien qu'il y a la ségrégation. Là où la France a parfaitement réussi en ce qui concerne les Italiens, les Espagnols, les Polonais, les Portugais, eh bien, elle peine à intégrer les populations non européennes, hormis la diaspora asiatique. Alors, quoi faire ? Eh bien, sans doute des politiques publiques, certes, éducatives, politiques de la ville, etc. Mais je pense que parallèlement, il serait important d'agir sur les imaginaires. Pour passer au-delà des préjugés, ou comme on dit en sociologie, les prénotions, il faudrait que les ingénieurs, les médecins, les professeurs, les écrivains immigrés ou issus de l'immigration et qui restent dans l'ombre de la célébrité deviennent des modèles. Tant pour prouver aux nouveaux arrivants qu'en France, tout reste possible, que pour dénouer les archaïsmes ostracisants de notre inconscient colonial. Osons les mots, Margot. Alors déjà, lors d'un colloque sur la pluralité des cultures organisé en 1987 à la Sorbonne, François Mitterrand, alors président de la France, avait évoqué dans un sourire cette singulière diversité. Il disait « Nous sommes français, nos ancêtres les Gaulois, un peu romains, un peu germains, un peu juifs, un peu italien, un peu espagnol, de plus en plus portugais, et peut-être, qui sait, polonais. Et je me demande si déjà, nous ne sommes pas un peu arabes », avait-il lancé. Et il ajouta, les parents de Zola et de Gambetta étaient considérés comme des gêneurs qui voulaient prendre la place des commerçants français. C'eût été dommage de les renvoyer.
Merci beaucoup, Soizic. Merci beaucoup. À très bientôt.
À très bientôt.
L'agité du local sur l'autre radio. L'agité du local, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Eric Fotorino et Pierre-François d'avoir été à notre micro aujourd'hui. Merci évidemment à Soizic. Alors, votre soirée commence à 19h avec Novorama qui, comme chaque semaine, vous propose une série de nouveaux albums indie rock, pop, électro. Ce soir, à 21h45, ne manquez pas la table ronde qui sera en direct du Carré à Château-Gontier. Cette table ronde intitulée « Migration entre loi et humain » qui sera animée par Stéphanie Pacro et Manu Grimaud de l'autre radio. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'Agité du Local. Nous serons avec la Ligue des Droits de l'Homme qui nous parlera du forum contre le racisme qu'elle organise ce 5 avril. D'ici là, gardez un peu de douceur sur la main pour les autres, pour vous ou pour plus tard. Vous le méritez. Et s'il vous plaît, faites-le bien.
c'est déjà la fin. Ben, qu'est-ce qu'on va faire maintenant?
Mimi, il y a d'autres émissions qui sont bien aussi sur l'autre radio.